Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h05, on y revient au mastic dans le Super Moscato Show. Comme tous les jours, vous le savez qu'on est là, de 15h à 18h, du lundi au vendredi. C'est comme ça. Et vous le savez pourquoi ? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à écouter les podcasts. Des millions et des millions, mais alors tous les jours. Allez, en avant Guingamp, nous sommes à The Flower from Cahors de Ligue Charlie.
Salut,
qu'est-ce qu'il dit ?
Je vais bien. Je repense à l'émission d'hier et j'en me fais rire.
Ah oui, on a bien rigolé.
J'arrivais au bureau, il rigolait déjà. Il a rigolé de l'émission d'hier, c'est incroyable.
Et on va rigoler aujourd'hui parce qu'on a invité la petite Bartole. Mario Martoli, qu'est-ce qu'elle dit, la souris ? Eh ben, elle est pas là.
Alors, elle est dessous, Denis, de la vidéo là, que tu renvoyais. Ah, bon. Mardi, on a passé. Oui. Je veux tout savoir.
Alors, on a pas compris, Marion, parce que tu n'étais pas à l'antenne. Que tu nous redises.
C'est-à-dire, là, on a l'équipe de nuit là, qui est aux affaires, là, entre la régie, tout ça, on a l'équipe de nuit. Donc, on est là,
bon,
ils n'ont pas le CRP.
Ou pas
oui, voilà. Bon. Ils n'ont pas le CRP, mais j'espère l'avoir en fin d'année.
Je veux savoir les dessous de cette vidéo qui a été entendue dans le journal moyen mardi, où Vincent hurlait dans un cône de chantier.
Mais c'était pas vraiment un cône de chantier, si vous voyez ce que je veux dire. Adrien, qu'est-ce qu'il dit ?
Comment ça va ? Très bien, ouais, impeccable.
Écoutez,
si vous voulez revivre le fou rire qui nous a pris par surprise hier, c'est disponible en podcast sur les réseaux sociaux, le compte Twitter du Moscato Show.
Mais tu sais que ce que dit Denis est vrai. Déjà ce matin, je me suis réveillé, j'y ai repensé, je rigolais tout seul.
Moi aussi.
Et tout à l'heure, avant que Denis arrive, je me suis refait la vidéo du truc.
En revanche, j'ai pas réellement envie de croiser Didier Deschamps tout de suite. Là, on va attendre quelques semaines.
Si vous avez raté ça, vous podcastez sur rmc.fr.
T'es un peu faible.
On rigole bien, mais le courage n'est pas notre principale qualité. Question moyenne du jour.
Oui,
Marion, j'ai une question positive sur l'OM, Marion. Une question moyenne pour toi. Selon vous, si l'OM bat le Paris. Selon vous, si l'OM bat le Paris Saint-Germain dimanche.
Oui.
Les Marseillais termineront-ils automatiquement pour vous dans le top 5 de la Ligue 1 ? C'est un européen, le déclic, tu bats Paris, il reste 8 journées, c'est de la folie, top 5. Oui pour toi Marion ?
Bien sûr.
Ah 100%. Oui, bien sûr, 100%.
D'accord.
Il faut un statut, sur la canne de bière, il faut un statut de loulou quoi, avec une sardine à la main.
On a bien dit si, évidemment, il y a un souci.
Il reste 8 journées, l'OM est à 4 points de la 5e place.
Plein de confiance.
Ils vont aller bonne fin de saison. Vincent.
Ah oui, Bardi. S'ils font ça, c'est le loulou est insensé. Une statue, la sardine à la main, sur la canne de bière, boum, un truc en bronze extraordinaire. J'ai bien dit, une sardine, pas la truite.
Pierre Dorian.
Réponse, non, pas à coup sûr.
Pas automatiquement.
Alors je pense qu'ils y seront. Là, à coup sûr, non, ils sont tout à fait capables de dégoupiller deux matchs plus tard.
Arrête. Pierrot, tu m'énerves.
Alors, Marion.
T'es rabat-joie.
Il n'y a pas beaucoup de blessés en ce moment.
La France du Moscato Show nous écoute. Elle a tranché sur X, l'ancien Twitter. Vous répondez non à cette question. C'est pas automatique. À 63%.
C'est dire le degré de confiance.
Il y a des doutes sur cette équipe encore. Et puis elle est blessée. Et puis il y a tout ça. Marion, ça t'a plombé en milieu de semaine. Ça y est.
Complètement.
Alors qu'il n'y a qu'une seule défaite.
La question, c'est si l'OM bat le PSG. Non, mais je ne te rends pas compte. Si tu arrives à faire cet exploit, mais c'est impossible que tu ne finisses pas en top 5.
C'est la dynamique incroyable.
C'est le final pour eux, c'est le final de battre et puis ils relâchent tout derrière, toi, les bras ballants comme ça, ils souffrent, ils ont tout gagné, ils partent en vacances et là ils finissent 12e.
Alors le programme cet après-midi, le foot masculin a-t-il sa place aux Jeux Olympiques ? On est en train de revivre le même cauchemar qu'il y a 3 ans pour les Jeux de Tokyo pour faire une équipe alors que les Jeux sont en France, Vincent, c'est absolument incroyable. Le spécial rugby, est-ce qu'il faut tout revoir à zéro dans la gestion de nos internationaux, vous allez entendre Grégory Aldrit. C'est une interview RMC Sport de Romain Asselin. Vincent, tu règles le problème des internationaux.
Ça fait 40 ans qu'on le dit, ça.
Ah oui, mais sauf que là, maintenant, il y a quelque chose qui a changé. On a vu avec Dupont que c'est possible. Ah
c'est
oui, drôle. Et Aldrit, tu vois. Donc, et Aldrit aussi qui a pris une pause. Ouais. Et puis 17h.
Après, il va falloir les payer, les mecs qui prennent des pauses.
Voilà.
Les mecs ne sont pas bankable comme Dupont. Hein.
Mbappé a-t-il l'attitude d'un capitaine ? Oui ou non ? 32-16. Journal moyen 15h45, Adrien.
On aime parler marketing dans le journal moyen première édition. La Ligue de foot a un nouveau logo. Alors, Vincent, il y a des explications. C'est un logo qui a une approche dynamique. Voilà, 15h45. Oui, voilà.
Je vois aussi la facture, l'agence de pub qui a facturé ce logo absolument immonde. C'est horrible.
Rendez-vous 15h45.
Faut pas rater les explications, Vincent.
Oui.
Ah
ouais,
je suis outré.
Les explications du directeur de l'agence.
C'est quoi, c'est 99?
C'est exactement ça.
C'est du niveau 99 Bec BD.
On est au-dessus, Vincent. On est au-dessus.
Mais pourquoi on pourrait pas les appeler? Quand on fait ce genre de débat, il faudrait les appeler, les mecs, qui nous expliquent quand ils se foutent de sa tronche en direct. Comme ça.
Et puis, une star internationale va donner un spectacle dans le Lot. Je vous raconte ça à 15h45.
Et puis, bien sûr, les cadeaux. Dans le Kikadi, votre paire de basket Wiz, vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. Et le coffre RMC. Attention, c'est demain qu'on ouvre le coffre, Vincent. Alors qu'on l'ouvre ou pas, hein, vous verrez que c'est pas forcément évident. Dans le coffre, il y a peut-être la somme de 50 000 euros à gagner. Pour vous inscrire, il faut attendre cette alerte. Et alors, vous le savez maintenant, cette alerte peut intervenir à n'importe quel moment. Ça peut être pendant une pub, ça peut être pendant les infos, ça peut être pendant les paris RMC, ça peut être pendant que Stephen Brun parle, ça peut être vraiment à tout moment.
Oui.
Donc, il n'est pas là aujourd'hui.
Ah, ça ne prévient plus. Ou même pas que Stephen, ça peut tomber sur tout le monde.
C'est
tombé sur moi. C'est tombé sur moi. Écoute-moi, Pierrot, à partir du moment où tu ouvres le coffre, il y a de l'oseille dedans, il y a un gain automatique.
Il y a un gain automatique, mais qui n'est pas forcément 50 000 euros.
Mais automatiquement, il y a quelque chose. Quoi.
Exactement.
T'en mets pas sur un bounty en travers, à moitié mangé par des souris.
Un bounty, c'est un lot.
Ça coûte combien, un bounty?
Un euro? T'aimes ça, les bounty, toi?
Un euro.
Mais non, si tu vas chercher ces 4 000, que tu tombes sur un bounty, t'as envie d'étrangler le mec, quand même.
Vincent fait partie de ces gens, je suis sûr, quand t'achetais un petit paquet de bounty, tu pouvais pas en manger un. Tu te faisais le paquet, c'est sûr.
Les bounty, c'était une boucherie, j'adorais ça. Et puis, ça m'a passé. J'aimais mieux les bounty que les Mars. Les Mars, c'était presque trop sucré.
Les Mars, c'est pas mal.
Je suis d'accord.
Mais j'aimais plus les Bounty que les Mars.
Voilà. Et après, avec le temps, je préfère les deux. Glacé en glace. C'était génial.
Le meilleur, c'est
le Kit Kat.
Le Bounty en glace, c'était génial.
Ah, Denis,
le Kit Kat.
Le Kit Kat.
Ah ouais. Moi, ce qui me reste, mon péché mignon, c'est les chamallows.
Le doigt coupe fin.
Ah non, les chamallows. Oh, mais jamais, je m'en colle dans les joues, mon pauvre Pierrot. J'apprends 4-5. Je m'en colle dans les joues, mais
allez,
j'adore
tout de
les
suite,
chamallows.
Les grandes déclarations pour les Jeux Olympiques, on n'y croit plus, messieurs.
RMC, le Super Moscato Show.
J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que les JO à Paris, c'était spécial.
De qui ce Mokoto?
J'ai toujours dit aussi que c'était un événement qui dépendait pas de moi.
Mais de qui ce Mokoto?
Maintenant, est-ce que vous voulez savoir si mon ambition, elle a changé? Non. Est-ce que la décision finale, elle appartient toujours à la même personne? Oui. Je suis arrivé à un moment de ma carrière et de ma vie où je prends beaucoup plus de recul sur ce qui m'arrive et sur les situations auxquelles je suis confronté.
Écoute-moi, ça va mal se passer. Hein.
Si j'y vais, je vais vivre un rêve éveillé. Si j'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire.
Mais qui vous êtes, monsieur? Breaking news.
Alors Vincent,
le rire.
Il y a un club de Ligue 1 qui est monté au créneau pour dire qu'il ne libérera pas ses joueurs pour les JO, c'est Rennes. L'Union Sacrée, bah, il n'y en aura pas hein, pour les Jeux à Paris. On a beau chercher un responsable, hein, parce que c'est vrai, on se demande si c'est la faute des clubs, la faute de la Fédé. La raison, elle est toute simple. Les JO ne sont pas une date FIFA. Pour les hommes,
oui.
C'en est une voilà. Pour les femmes, Vincent.
Incroyable. Énorme différence.
D'où la question, le foot masculin a-t-il sa place au JO? 32-16. Loïc Braillet, bonjour.
Salut tout le monde.
Et c'est donc, Braillet. On est retourné 3 ans en arrière. C'est un casse-tête, comme pour les Jeux de Tokyo, ouais. Pour faire une équipe de France.
Exactement. Alors Philippe Diallo, le président de la Fédé, a voulu, il y a plusieurs mois déjà, mettre clairement la pression aux clubs en leur disant « Il est hors de question de revivre le fiasco des JO de Tokyo, où les Bleus avaient été éliminés au premier tour, on s'en souvient. Là, les Jeux sont à Paris et l'ambition est tout autre. Bien sûr, la FFF a fait un gros effort en faisant venir Thierry Henry. Au club maintenant de jouer le jeu dans l'intérêt supérieur du pays. » Voilà un petit peu la teneur du discours de Philippe Diallo. Alors, une réunion s'est tenue il y a quelques semaines entre les présidents de la plupart des clubs de Ligue 1 et la FFF. Le climat a été très bon. Les phrases de bonnes intentions se sont enchaînées. Oui, pas de souci pour libérer les joueurs pour les JO. Aucun club n'a émis de réticence à condition de ne pas mettre en danger tout de même le tout début de saison, notamment les tours préliminaires de Coupe d'Europe des clubs qui vont tomber en plein milieu du tournoi olympique. En gros, le discours c'était OK sur le principe, mais il faut rentrer maintenant dans le détail. Hier, Florian Maurice, le directeur sportif de Rennes, a été le premier à le dire publiquement. Libérer les joueurs sur le principe, oui. En libérer 4 ou 5 potentiellement titulaires, là c'est clairement non. Et tout le problème est là, aucune règle précise n'a été édictée. Combien de temps les joueurs seraient libérés? Combien de joueurs par club, etc., etc. Les joueurs attendent des précisions et la FFF attend de voir quels seront les clubs concernés. Donc, on attend de voir le classement définitif de fin de saison. Il reste 9 semaines à Thierry Henry pour élaborer une liste de 22 joueurs, dont 4 réservistes. Ce sera autour du 20 mai et il est urgent d'attendre.
Alors évidemment, Vincent, tout ça, ben, ça n'existerait pas si les JO étaient considérés comme un tournoi à part entière par la FIFA. Du coup, la question se pose, est-ce que vraiment le foot masculin a sa place au jeu ?
Ben, le foot masculin, non. La preuve, c'est que c'est pas pris au sérieux. À partir du moment où c'est pas dans un système professionnel, eux, ils ont d'autres chats à fouetter. Alors, pour moi, l'éthique de ce genre de truc, s'il y en a une, parce que bon, déjà, le foot, c'est comme le rugby, c'est quand même des pièces rajoutées. Même si ça fait longtemps qu'on joue au foot au JO, je crois qu'il y a d'autres compétitions qui lui sont supérieures et de loin. Le JO, c'est pour l'athlétisme, c'est, on va pas refaire tous les trucs, la boxe, machin, tous les sports ancestrales, même le tennis. Écoute-moi, le tennis, quand je te dis un truc, ça vaut pas un pichet de cidre. Moi, je ne regarde même pas le tennis. Moi, tu regardes Wimbledon en priorité, surtout quand il y a une Française qui gagne. Ça, je le regarde. Ça, oui. Là, oui. Là, j'y suis. Au bord de la pelouse, je me fais discret, je me fais pas remarquer, mais j'y suis. Ah ben, j'ai des pop-corn et des chamallows. Mais après, le foot, ça n'a rien à y faire. Moi, tu sais ce que je ferais? Je dirais au club, voilà, les gars. Il y a 20 clubs. Eh ben, on prend un mec dans chaque club. Et puis voilà, c'est l'union sacrée. On mutualise les trucs. C'est la sélection la meilleure, mais dans 20 clubs. Vous êtes obligé de prendre un mec dans chaque club. Déjà, ça récompense tous les clubs qui bossent et des mecs qui sont jamais sélectionnés. Des mecs comme Brendan, qui ont été exemplaires cette saison. Ah je le prends.
Ah, mais il est pas bon, lui.
Mais moi, je te le dis, je parle, quand je vous dis ça, je vous parle sincèrement. Ouais. Je dis que comme c'était une compétition différente, et bien faisons-la différemment, avec une très bonne sélection, mais avec une obligation de prendre un joueur dans chaque club, dans les 20 clubs professionnels, et de prendre peut-être aussi des mecs qui ne jouent pas encore en professionnel, c'est-à-dire des types comme Gilbert Bribois, comme Jean-Louis Tour, comme Mohamed Boissy, tu comprends ce que je veux te dire, bon, 20 clubs, tu prends un mec, et là, c'est obligé, tu leur dis au mec, ok, t'es le président, on fait comme ça, on fait une sélection comme ça.
Tu crées une règle,
t'es obligé de prendre un joueur dans chaque club professionnel. Et voilà, Denis, et tu te démerdes avec ça. C'est là la magie des JO. Ça serait un peu ajouter quelque chose de différent, d'un peu, ben, de partager quelque chose. Voilà.
Non, mais sur le fond, évidemment, que le football a sa place aux JO. C'est un sport universel. Et que moi, le premier, j'aimerais voir le foot, enfin, dans sa dimension qui est la sienne, aux JO. Aujourd'hui, c'est irregardable, Denis. Le problème. C'est pas une compétition en soi. Le problème, si tu vas voir les JO, ça, c'est, je sais pas, c'est pas une compétition. C'est hors du temps. Ça intéresse personne, en fait. Donc, c'est ce qui est scandaleux, c'est que, en fait, c'est une affaire de gros sous. Pourquoi ils sont pas les meilleurs joueurs du monde sont pas aux JO? Ben parce que c'est pas inscrit à la FIFA, parce qu'il y a de l'argent qui a pas d'argent à ramasser.
C'est réservé au moins de 23 déjà, hein, normalement.
Oui, mais d'accord, mais pourquoi c'est pas réservé
au moins de 16, moi je ferai la
règle. Non, mais il y a pas de raison.
Parce qu'il y a des compétitions qui s'enchaînent, c'est le problème.
Oui, d'accord.
Les calendriers qui se chevauchent.
Oui, mais c'est justement le problème des calendriers. À ce moment-là, une année JO, tu mets les JO en priorité, tout simplement.
Mais c'est pas d'amateurisme avec le professionnalisme, tu peux pas jouer avec les deux. Les deux ne peuvent pas se mélanger.
Alors le tennis, comment fait un sang, on gère. Il n'y a pas de tennis.
C'est individuel. Le golf, c'est individuel. C'est pas pareil. C'est pas le souci de sélectionner 30 mecs dans le même sport. Au tennis, tu vas en avoir 3. Au golf, tu vas en avoir 3. Là, t'as 30 mecs qui te font sélectionner pendant 3 semaines. Et des mecs qui sont payés 100 000, 150 000, 200 000 dans leur club. Tu vois, c'est les gars, on ne mélange pas le professionnel et l'amateurisme. Ça ne peut pas vivre ensemble.
Ça serait beau.
C'est deux trucs. C'est pour ça que dans les clubs, T'as deux trucs. T'as une société qui s'occupe des amateurs, c'est-à-dire de la formation, tout ça. Loi, souvent, loi 1901, c'était comme ça dans le rugby. Et une société professionnelle. On peut pas mélanger les deux.
D'accord, mais ça, ça serait
et
pas
là, on
beau
le voit.
Que
et là, on le voit.
Mais ça serait pas beau que Messi ou Mbappé, ils viennent pour le bonheur.
Oui, mais ils viennent individuellement. Ils viennent pour avoir une médaille de plus. Ils viennent pas pour les JO. Ils viennent pour être vus, pour leur sponsor. Vous n'avez pas compris comme, comme quand Federer et tout ça. Ils viennent pour le sponsor. Vous croyez quoi?
Messi va venir.
Les autres, ils viennent pour être vus à Jolie. Pique avec des gamins de 18 ans qui chient encore dans leur bouche.
Ils sont pas au village, les joueurs de foot. Ils sont pas au village.
Non, mais vous rigolez, quoi.
Non, moi je rigole.
Ils ont gagné les Champions League, ils sont champions du monde, ils vont au JO, les
mecs. Oui, mais non, ils ne feraient pas tout cinéma pour y aller. Marion, est-ce que le foot masculin a sa place au JO?
Non, mais oui, bien évidemment. Et puis surtout, c'est un des sports les plus historiques des JO. Faut bien savoir quand même que le football a été intégré aux JO à partir de 1900 aux JO de Paris. Le problème, en fait, ce qui se passe, c'est que au départ, le foot était consacré à tout le monde. Et puis, la FIFA a commencé à gueuler en disant non, 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 on va faire d'autres compétitions à part. Et donc, la première Coupe du Monde a été créée. C'est là où, en fait, ça a commencé à avoir des problèmes de calendrier, des problèmes de chevauchement. Au départ, les JO étaient réservés aux amateurs. Ensuite, la FIFA a dit non, nous, le football, c'est un sport professionnel. Donc, on veut pas que les professionnels soient envoyés dans une compétition amateur. Et c'est à partir de là où effectivement ils ont essayé de pondre des règles. Alors trois joueurs de plus de 23 ans, puis le reste de moins 23. Et on voit qu'ils essayent de continuer à garder un espèce de professionnalisme intégré, mais tout en disant oui, mais c'est quand même pas trop professionnel. Mais en fait, au départ, les règles sont fausses. Donc pour moi, le foot est un sport, effectivement, à partir du moment où il y a un historique aussi important qui est complètement intégré dans les JO. Quand je regarde, même si on prend...
Il n'y a pas un grand intérêt sportif, le problème.
Plus de 10 sélections, tu n'aurais pas le droit pour moi de participer.
C'est vrai ce que dit l'intérêt sportif, c'est important parce qu'en athlée, il n'y a plus cette histoire d'amateurisme, etc. Mais tu as les meilleurs du monde dans presque tous les sports, tu as les meilleurs du monde.
Mais en foot,
regarde,
non.
Ça passe sans sens. Au JO de Londres.
Parce que les meilleurs du monde, ils sont ailleurs au foot.
Oui, les JO de Londres.
Non, mais si tu enlèves les JO de Rio, où on se dit, ok, c'est une terre, le Brésil, c'est une terre de fou, donc on compare. Ouais. Voilà. Les JO de Londres, tu avais quand même plus de 2 millions de billets vendus pour aller voir le foot.
Soit.
Mais oui, mais ça, c'est normal, ça.
Mais donc, ça veut dire que c'est un succès populaire. Donc, en fait, au départ, c'est les règles qui sont les règles de sélection qui doivent être changées pour arriver à ce que les sélections arrivent à faire des équipes.
Comme elle assume pour le foot féminin, soit la FIFA assume.
Mais oui, mais bien sûr.
Et ben, sinon, l'autre solution, elle est aussi radicale, c'est d'arrêter avec le foot.
Puisque tu
as des problèmes d'effectifs. Tu as un tournoi à 16 équipes. Donc, tu as un nombre de participants qui est exceptionnellement élevé. Pour un seul sport. Et à côté de ça, t'enlèves des épreuves d'escrime, tu menaces la lutte. Pourquoi? Pour des raisons d'effectifs olympiques. Bah, c'est nul. Donc, soit le foot assume, soit il disparaît, et puis personne ne pleurera. Et en plus, ça manquera à personne qui a un tournoi olympique de foot.
Voilà, t'as raison, Pierrot. Ça ne manquera à personne, au JO.
Ça ne manquera à personne. Non, je ne suis pas d'accord.
Ou de proposer à l'image du rugby, qui n'est pas le rugby à 15, qui est olympique, le rugby à 7, on peut imaginer du football comme le futsal, du
football, du golf contre
la compétition de piqué.
Mais c'est, tu sais quoi, mais non, mais ça c'est une alternative.
Tu es en connexion mentale. Alors je sais pas si c'est bien ou pas avec Didier Giraud, l'agriculteur des grandes gueules. Il vient de m'envoyer. Salut le Moscato Show. Il nous embrasse. Il est sur son tracteur. Il travaille. On a bien le rugby à 7 et pourquoi pas un tournoi de sixte au JO. Il a la même idée que toi.
Mais à la limite c'est mieux.
Didier, si c'est pour faire des interventions de merde, tu restes sur ton tracteur.
On parle à Guillaume au 32-16. Bonjour.
Vous allez voir que le foot va être hyper populaire encore au JO de Paris. Je suis pas d'accord avec vous.
Est-ce que le foot masculin a sa place au JO, Guillaume?
Mais le foot masculin a sa place. Le problème, c'est notre fédération et notre État qui n'a pas fait le boulot. Alors, en Espagne, ils ont fait une loi comme quoi la fédération est prioritaire sur les clubs. Nous, en France, ça a été un gros fiasco il y a 4 ans. Et là, en 4 ans, on n'a pas été capable de faire passer une loi pour prioriser la fédération sur les clubs. C'est ça le problème, surtout.
Exactement. Ce n'est pas le problème des disciplines.
Tu as raison. Et puis, quand même, il faut prendre en compte un élément essentiel.
C'est alors, Vincent, loi en Espagne.
Vincent, tu nous dis.
Alors, c'est pas pour qui
C'est peut-être pour se faire de la pub.
C'est quoi c'est...
Vincent, vas-y. Tu nous dis. Alors, c'est peut-être pour se faire de la pub, mais il faut prendre en compte un élément.
Franco qui est revenu au pouvoir. Vas-y.
Un élément. Pas besoin d'être un dictateur pour faire une règle, si je peux me permettre, Adrien.
Il y a un élément. Mais non, mais l'État, c'est pas l'État qui a fait une règle.
Si, si, juste avant les JO de Barcelone, l'État a légiféré pour obliger les clubs espagnols de libérer à l'intérieur d'Espagne, pas dans les clubs étrangers.
Tu vas être obligé de faire pareil en France.
Il y a un élément essentiel, je sais que ça t'énerve Vincent, mais aujourd'hui, les générations de joueurs aujourd'hui, les athlètes, les footballeurs professionnels de très haut niveau, les Jeux, ça les fait rêver. Donc ça donne sa place au foot, aux Jeux. Si les grands champions rêvent de ça, je veux dire, tu interroges Messi, Mbappé, Griezmann, Giroud, et c'est pas que pour se faire de la pub, c'est pas que pour les sponsors. Ils veulent faire les Jeux parce que ça les fait rêver.
Ah
Vincent, une
question très importante. Novak Djokovic prend-il une mauvaise décision? Il se sépare de Goran Ivanisevic. À tout de suite.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h28, on y revient au Mastic, bien sûr, avec Marion Bartoli. On est dans le Super Moscato Show, Denis Charvet. Adrien Aigouin, mon petit Pierrot, dans demi-heure, fais-moi caca, c'est le programme.
Alors, dans une demi-heure, nous allons parler rugby, Vincent, avec Midi Olympique, avec une très belle interview de Grégory Aldrit, le capitaine du 15 de France, Vincent. Est-ce qu'il faut tout revoir à zéro sur le temps de jeu des internationaux?
À zéro.
Repenser tout de A à Z pour être enfin champion du monde. Vincent règle le problème.
Tu sais, en préparant l'émission avec Vincent, parce qu'aujourd'hui, on a préparé l'émission, Vincent, il m'a dit, il a eu un éclair de lucidité, très pertinent, il m'a dit, mais en fait, on l'a déjà fait en 2007, ce débat. On pensait que ça allait se solutionner. Et en fait, Rien n'a changé, on a perdu en quart de finale, on n'est toujours pas champion du monde.
Bien entendu que ce sport-là, tu le ferais système américain sur 6 mois, mais il n'y a pas d'oseille, tu es obligé de jouer 10 mois, 11 mois. Qu'est-ce que tu veux faire?
Allez, d'abord le tennis et Novak Djokovic.
Djokovic.
Le cri de gueule du Super Moscato Show.
Alors d'accord, mais à ce moment-là, on dit Djokovic.
Djokovic. T'as écouté à Roland Garros, il n'y a pas d'arbitre qui dit Djokovic.
Mais tu crois que les arbitres, ils parlent le serbe, toi?
Djokovic. L'important,
il y a même une prononciation officielle, tu vas censer de la TP. Non,
mais l'important, c'est pas
Djoko, tu l'appelles, ça suffit.
Djoko. Mais non, mais tu finis un vitch et puis c'est bon, hein. C'est réglé. Hein.
Bon, Vincent, les mecs, ils savent que c'est un mec.
Moscovitch,
aujourd'hui, tu es de mauvaise humeur. Ouais, ouais, c'est pas ce qu'il
a. Je te jure que là, je suis de bonne humeur. Non, non, je te promets.
T'as bien mangé ce vitch?
Peut-être que j'ai petit envie de te battre alors.
T'as pas mangé alors.
Là, j'ai du gaz, les gars. Là, j'ai du gaz. Le problème, moi, c'est que dès que le week-end arrive, je me sens junior. Je suis faible en début de semaine.
Tu sais pourquoi? C'est ton corps qui s'est habitué au match le dimanche.
Ouais.
Voilà, c'est ça.
T'as un match à faire le dimanche.
J'ai dit, je sais pas quel match je vais trouver.
Du coup, ça devait être joli les entraînements de début de semaine avec Vincent, Denis.
Oui, même à la fin de semaine.
Donc là, vu l'état de Vincent, Denis, tu fréquentes Vincent régulièrement le week-end. Vu l'état de Vincent jeudi, attends-toi une catastrophe samedi soir.
Non, mais moi, je suis pas plus sûr.
Tu vas le gérer encore samedi.
Je suis malade.
Mais non, mais j'ai perdu un copain.
En fait, c'est ton chaperon, Denis Charvet.
Il a quoi? Non, mais c'est quoi? J'ai perdu un pote, quand on a bureau, quand Denis en moins, un de moins. Chaque année, quand tu vis, t'as l'un qui meurt. Comment ça, toi?
C'est pas mort encore.
Si tu fais plus l'apéro, c'est tout comme.
Oui, c'est pas faux.
Alors, Vincent, on va parler de Novak Djokovic. On a donné l'info hier. Il a annoncé la fin de sa collaboration avec Goran Ivanisevic, son coach. Et on se demande bien pourquoi, en fait. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Leur bilan, il est exceptionnel. Hein. C'est 9 titres en Grand Chelem en 5 ans. Les raisons n'ont pas été données. Et tous les deux ont loué les qualités de l'autre. Donc, a priori, ils ne sont pas fâchés. Pourquoi maintenant? C'est aussi une question. Alors qu'il avait changé deux membres importants de son entourage et de son staff à la fin de la saison dernière. À la fin de saison, c'est un bon moment pour se réorganiser, Vincent. Là, il a attendu le mois de janvier, c'est-à-dire après le premier grand chelem de la saison. Et puis, il n'a pas donné de nom pour le successeur d'Ivanisevic. Question quand même, est-ce qu'il n'est pas un peu en train de paniquer ou est-ce qu'il ne prend pas tout simplement une mauvaise décision, Vincent?
Non, je pense pas. Je pense que justement, il a envie d'un coup de. Moi, je pense que c'est une bonne décision. Il faut changer. Ça fait 6 ans qu'il y est. C'est un mec crédible. Il use. C'est un type qui tuse, quoi. Toi, c'est une meule à aiguiser les couteaux. Lui, il tuse petit à petit. Il est là comme ça. 6 ans avec lui, c'est trop dur. C'est trop dur. Donc, il change de mec. Il a envie de voir autre chose. Eh bien, il a raison. Ça peut peut-être lui amener peut-être quelque chose en plus. Peut-être que, même à 36, 37 ans, parfois, t'as plus de retour sur toi-même. T'as oublié quelque truc, de prendre un mec nouveau, ça peut lui amener une autre ambiance, autre chose. Le frais, ça fait toujours du bien, un peu de frais. Et donc, moi, je suis pas persuadé. Je trouve que stratégiquement, pour la dernière partie, c'est 2 ans, là, qu'il lui reste à faire. Parce qu'au maximum, il y a 2 ans à faire. Mais je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est même courageux pour lui de faire ce genre de truc.
Ça te fait du bien de faire du frais, toi.
Denis, tu partages.
Je crois que Denis se moque de toi,
oui, un peu, oui. Moi, j'ai pas le même sentiment. Je pense que c'est à double tranchant, cette décision. Alors, il me tarde de voir ce que dit Marion, mais je sais pas, à cet âge-là, se réinventer en fin de carrière comme ça, alors que t'avais la confiance.
36 ans, bientôt 37. Ouais,
enfin, c'est fin de carrière, quoi. Mais t'avais la confiance de ce mec qui était un grand champion. Alors, je pense que c'est lui qui peut plus supporter. Je sais pas qui peut plus supporter l'autre, mais.
Les deux.
Mais ça va être compliqué pour lui parce que ça va être un nouveau langage. Alors, tu me dis, il va faire du free. Moi, je veux bien. Mais il a plus le temps. Djoko, il a plus le temps. C'est le problème. Il a un ou deux ans. Là, on voit que ça déraille un petit peu.
C'est ça, le tennis.
Oui, mais là, il est en train d'un peu dérailler. Alors, je sais pas pour les raisons majeures, mais on voit bien qu'il a du mal à revenir.
C'est pour ça qu'il lui faut un mec. Il lui faut un mec nouveau.
Ouais, mais tu sais très bien qu'à ce niveau-là, c'est la confiance qui est importante. Donc c'est là où je me dis, ça peut casser comme ça peut passer. Moi, je suis assez dubitatif et je trouve que c'est vraiment une prise de risque qu'il prend à cet âge-là. Ça m'étonne.
Marion, est-ce que tu es dubitative?
Non, pas du tout. Alors effectivement, la collaboration qu'il avait commencé avec Goran, au départ, c'était en partage de coaching, parce que c'était Marianne Vajda qui était restée son coach principal. Et Goran était vraiment venu pour améliorer son service, qu'il a d'ailleurs totalement réussi à faire, parce que quand on regarde les stats de Novak avant la venue de Goran Ivanišević et après, il y a eu un changement colossal et énorme, une amélioration. Ah, mais il y a une amélioration qui a été énorme. Et si d'ailleurs il continue à autant gagner, en particulier l'année dernière, c'est parce qu'il a été beaucoup plus efficace sur ses jeux de service et qu'il a eu besoin de beaucoup moins courir et de défendre du fond du court comme il le faisait auparavant. Parce que forcément, à 36 ans ou à 35 ans, vous n'avez pas les mêmes jambes qu'à 25. Donc, il a été justement visionnaire dans cette manière d'apporter quelqu'un de supplémentaire. Ensuite, Gorad est devenu son coach principal parce que, voilà, Marianne Vajda avait décidé de plus voyager. Il y avait des problèmes familiaux pour lui en Slovaquie. Il voulait faire beaucoup moins de tournois sur le circuit. Et donc, comme il y avait déjà Goran qui était dans la structure depuis 4 ans, il s'est senti de gérer Novak seul. Aujourd'hui, Novak, il a besoin de repartir sur un dernier cycle. Le dernier cycle, c'est effectivement 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça, lui seul le sait. Aujourd'hui, il est au-dessus de tout le monde dans toutes les statistiques et toutes les statistiques possibles. Donc, il a plus rien à démontrer à personne. Simplement pour lui, c'est terminé avec encore de grandes victoires. Et effectivement, pas cette sensation de se dire, j'arrive plus à trouver la motivation. J'arrive plus non plus avec mon coach à me relancer parce que, voilà, on se connaît trop ou qu'on a passé trop de moments ensemble. Et il faut repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, son coach qui est actuellement avec lui à Belgrade, c'est quelqu'un que je connais très bien parce que j'avais joué avec lui, tournoi des légendes à Wimbledon.
Comment
il s'appelle Nena Simonic.
Simonic.
Zena Zimonjić, donc ça a été son capitaine de Coupe Davis en Serbie. Et en 2021, quand il fallait absolument qu'il regagne Wimbledon, l'année où il joue Kyrgios en finale, où il fallait qu'il reparte sur une victoire en Grand Chelem, il avait demandé déjà à Nenad de passer les 15 jours avec lui parce qu'il lui apportait de la sérénité, du calme, de la confiance. Et je pense qu'effectivement, sur ce début de saison, ce qu'on voit, c'est qu'il fait beaucoup de choses Novak en dehors du terrain, qu'il a énormément d'activités. Il a été aux Lakers voir LeBron James, il a été voir Stephen Curry. Donc on comprend que il est rentré aussi dans une autre dimension médiatique, mais je pense que d'avoir quelqu'un qui arrive, d'abord qu'il connaît très bien depuis qu'il est très jeune, et qui arrive justement à lui redonner ce dernier petite étincelle dont il a besoin pour se relancer, parce qu'encore une fois, quand on a autant gagné et autant de choses, de trouver la motivation au quotidien, c'est vraiment très très
difficile. Mais il n'y a pas de prise de risque, moi, Marion, aucune prise
non, parce
de
risque. Le timing ne s'arrange pas. Non, mais la prise de risque, elle est où? De toute façon, il a déjà tout gagné, il a battu tous les records, il terminera au-dessus de tout le monde.
Il va prendre un mec qui connaît. il va prendre
un mec qui connaît. Il prend quelqu'un qui connaît déjà.
Moi, je suis pas d'accord. Il y a la routine.
Il prend un mec pour l'améliorer sur les normes.
Mais Marion, il y a une routine quand même qui s'installe. Et à un moment donné, ce confort-là, tu le changes. Marion, en changeant d'entraîneur, tu le changes forcément.
Marion, on se posait une question hier.
Non, parce que sa routine, c'est lui qui la dicte au quotidien. C'est jamais son entraîneur qui dicte ses routines.
C'est le quotidien qui cherche le mec qui va lui garer la bagnole.
Marion, on se posait une question hier. Je te pose la question de manière naïve.
C'est 2022, pardon, pour la
question. Mais volontaire, quand tu es le plus grand joueur de tous les temps, tu es le plus titré de tous les temps, je te pose la question volontairement. À quoi te sert un entraîneur ? Dans le détail. Avant et pendant un
la
match.
Confiance.
Ah, non, mais justement, dans le détail, que peut apporter un entraîneur à Djoko ? C'est au-delà de ces gammes, non ?
Non, ces gammes-là, non, parce que tu les récites depuis que t'es tout petit et qu'il n'y a pas besoin de personne pour les faire. Non, t'as besoin d'avoir quelqu'un qui, effectivement, arrive à continuer, à donner cet état d'esprit de se dire, bah voilà, je vais me faire mal au quotidien à l'entraînement. Quand éventuellement mon niveau de jeu n'est pas totalement à 100%, d'avoir quelqu'un qui te connaît assez pour te dire, bah là, non, écoute, à l'entraînement, c'est pas suffisant, il faut que tu fasses plus. Quelqu'un qui t'as confiance, effectivement, sur son jugement extérieur. Donc pas quelqu'un de complaisant, mais quelqu'un qui va te dire la vérité.
Et sur l'adversaire, et puis après, l'étude de l'adversaire, c'est important.
Oui, mais bon, ça, il les connaît tous par cœur. Mais c'est surtout la gestion des émotions en match. Ah. Et Novak, je te rejoins, Vincent, c'est quelqu'un qui en match est très très dur avec lui-même, qui peut être aussi très très dur avec son staff.
Avec
et donc il faut avoir l'habitude d'absorber ce stress-là et de redonner une image positive, une image qui le rassure. Et encore une fois, il prend quelqu'un qu'il connaît.
Qui absorbait ton stress, Vincent? Lui, il absorbe le stress des autres, je te le dis. Il absorbait tout ce qui passait autour. Il
je sais pas si vous m'avez entendu, mais c'était bien 2022 pour la finale de Wimbledon et pas 2021.
Non, mais là, c'est le concierge qui cherche un ami qui se balade avec lui, qui lui dit les valises sont là, machin, tout ça.
Non, mais
se
non, justement.
Non, mais ce qui est curieux dans ce que t'as dit, Marion, ce qui est curieux, c'est de voir à quel point ces joueurs qu'on n'imagine pas fragiles sont comme les autres, en fait. On a l'impression que tout glisse sur eux, alors qu'en fait, c'était tellement fragile.
Par exemple, Marion, on a vu des scènes incroyables. Dis-nous ce qui se passe quand Djoko a un changement de côté, d'un coup, sans guirlande. Et a des mots très durs avec son staff qui est dans les gradins. Il leur reproche quoi, par exemple? Quel genre de choses il leur reproche? Pourquoi il s'énerve?
Alors,
à ce moment-là,
écoute,
en plein match,
il y a eu un moment où sur la finale de dernière US Open contre Medvedev, je suis vraiment, mais quand je te dis au bord du terrain, c'est simple, je suis assise juste derrière les chaises des joueurs, donc j'entends tout, j'écoute tout, j'entends la conversation qu'a Medvedev avec son coach en français, j'entends ce que dit Novak en anglais, parce qu'à ce moment-là, quand même, il parle à l'anglais à son staff, et il leur demande des conseils très très simples, des choses basiques. Tu dis, c'est pas possible, quelqu'un qui avait déjà, parce qu'il était pas encore à 24, il était à 23.
C'est ça qui est étonnant.
Mais mon lancer de balle, il est comment en service? Comment je dois mettre au retour? Non, mais je te jure, je disais, mais c'est pas possible. Enfin, un lancer de balle au service que t'apprends quand t'as 8 ans,
l'école
de tennis.
Mais malgré ça. Marion?
Oui, bien sûr, mais sur d'autres choses. Mais en fait, si tu veux, la difficulté d'un sport individuel comme le tennis, c'est que tu es confronté à tes propres peurs en permanence.
Mais ouais.
Et que ces peurs-là, voilà, exactement. Tu as besoin d'avoir des gens qui te rassurent pour arriver à les affronter et donc arriver à battre son adversaire. Et ça, c'est très, très difficile. C'est usant psychologiquement. Ça laisse des séquelles qui sont importantes, surtout quand tu perds des matchs. Alors, Novak a cette grande chance d'avoir pas beaucoup perdu dans toute sa carrière. Et je peux te dire qu'il y a plein d'autres joueurs qui ont des carrières, bien sûr, pas l'équivalence de Djokovic et qui restent avec des séquelles
après,
psychologiques qui sont importantes.
Juste
une
remarque.
Parce que c'est très
Marion,
dur. C'est très, très
tu nous
dur.
Parles de manière très rationnelle. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté irrationnel dans sa décision. Le timing m'interroge fortement. C'est-à-dire que là, il a vécu un échec, même si c'est une demi-finale, bien sûr. Hein. Il a vécu un échec à l'Open d'Australie. Il a du mal à revenir. Il a une saison sur terre à faire. Et là, il change de coach.
Parce que ça marche plus, frérot.
Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que là, il va démarrer sa saison sur terre. C'est l'objectif numéro un de sa saison. Il n'a pas de coach. Et puis, ça va commencer dans 15 jours.
Mais si. Bah,
il y a quand même un truc qui semble de l'ordre.
Non, mais Pierrot, déjà, je ne peux pas dire ça. Non, je ne peux pas te laisser dire ça, parce qu'il est avec son coach. Non, mais surtout, il est déjà avec son entraîneur au quotidien à Belgrade en train de s'entraîner sur ta patte. Déjà, je ne peux pas te laisser dire ça. Bah, en tout cas, si lundi il est à Monte Carlo, c'est lui qui continuera avec
on
lui.
On peut ensuite, pas te laisser dire ça, Piron.
Non mais ensuite pour continuer, Djokovic n'est pas sa première saison sur terre battue. Et c'est exactement comment se préparer. Oui. Donc aujourd'hui, il a mais besoin voilà. de quoi dans sa structure, pas quelqu'un qui lui dit comment frapper son courroie, son revers et son service. Il a besoin de quelqu'un qui quand il arrive,
mais quand même, il arrive
sur le terrain, le motive, lui dit allez bon Novak là, tu vois sur le début de saison c'était pas terrible, on repart au charbon, on va faire un peu plus d'heures.
Mais Marion, je ne suis pas là.
Il veut non mais il n'y a pas de discours. Il n'a aucun discours. Le coach, il vient, c'est un mec qui rassure. C'est un mec qui donne parce qu'il est seul. Exactement. Il n'a pas besoin de discours. Il sait ce qu'il fait. Il fait mais sa vidéo avec le mec. Il a besoin d'un accompagnateur. 90% de l'entraînement de Djoko, c'est Djoko.
C'est un accompagnateur.
Un mec qui connaît très bien le tennis et qui va lui. C'est des ajustements très précis. Mais lui, il peut s'entraîner tout seul. Mais il ne sert pas à rien. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il n'a pas l'importance d'un joueur de foot. D'un entraîneur de foot ou de rugby.
Très vite, Marion, parce qu'on a fini.
30 secondes.
Vas-y.
Donc, ce fameux Wimbledon 2022, Novak arrive avec un état de tension et de stress, mais comme jamais. Il faut absolument qu'il gagne ce Wimbledon. Goran va parler à Nenad Zimonjić en lui disant j'arrive, enfin, ça va être vraiment très, très dur. On n'arrive pas à gérer son stress et tout, c'est compliqué. Et donc, Djokovic demande à Nenad Zimonjić de venir l'accompagner sur les 15 jours à chaque entraînement. La première chose que dit Nenad à Novak, c'est de dire détends-toi, arrête d'être aussi tendu, arrête de mettre autant de pression sur ton staff, fais un peu plus attention à ça au niveau du service, fais un peu plus service volé, enfin deux trois trucs. Et il a gagné Wimbledon, je vais pas dire facilement, mais en tout cas il a quand même déroulé. Donc pour te dire que ces joueurs-là, ce niveau-là, c'est des détails, c'est des micro pourcentages.
Dans une période où il doute peut-être.
Il a 24 grands chelems, il ne domine pas autant, parce qu'il n'a pas joué, il n'a pas son niveau, le changement
parfois est très bon et crois-moi ça va peut-être le faire monter en gamme très rapidement de conserver son mec si on était reculé pour mieux sauter. Il n'y a que Vincent et Marion qui vont savoir de quoi on parle.
On va parler de milliards de dollars.
C'est tout
de suite
Denis, il met des coups d'épaule au coffre pour le fermer. Denis aussi, Denis. Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h46, on y revient au mastic dans le Super Moscato Show. C'est le journal moyen d'Adrien Aigouin, première édition.
L'actu, la culture, les médias, la une de ce journal moyen, première édition. Vincent et Marion savent de quoi on parle. On va parler de milliards. Denis, tu peux participer à la discussion.
De loin.
Pierrot, on est un peu loin. Pierrot, on prendra
des notes.
Une star internationale. Tout le monde le connaît.
Oui. Pierrot.
Une star internationale a choisi le Lot pour faire son retour sur scène. Et ça, c'est beau. Pas très loin de chez Denis Charvet.
À l'époque, Denis
y retournait de temps en temps. Et puis, marketing. Alors ça, tu vas adorer, Vincent. La Ligue de foot a un nouveau logo avec une approche dynamique du logo.
Oui,
approche dynamique, bien sûr. Vous écoutez RMC.
Franchement, j'aurais voulu être au meeting, je te jure.
C'est le 1771e dynamique journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC. Toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
On débute, on aime ça dans le journal moyen. On aime parler de l'argent des autres avec l'histoire d'un énorme jackpot direction les States, jingle États-Unis.
Joe, faut que je te parle, c'est sur le sujet de toi.
We did it, Joe. Money.
Nous sommes dans le New Jersey. Mardi, la vie d'une personne résidant de cet état a totalement basculé. Je vous en ai déjà parlé. Vous savez, aux États-Unis, il existe un jeu, une loterie qui s'appelle le Mega Millions. Cette personne avait joué les numéros 7, 11, 22, 29, 38, ainsi que le Mega Ball, Vincent, le numéro 4. Le lendemain du tirage, cette personne a vérifié si elle avait les bons numéros. Elle avait les bons numéros. Cette personne, dont l'identité n'a toujours pas été révélée, va toucher 1,1 milliard de dollars. Au loto, tu gagnes 1,1 milliard de dollars. C'est le cinquième plus gros lot de l'histoire du jeu et déjà le plus gros gain de l'année. Alors attention, il y a un dilemme maintenant, il y a un choix à faire et vous allez faire le choix à la place de cette personne, vous allez la conseiller. Il y a deux possibilités de paiement qui lui sont proposées. Soit des versements annuels pendant 30 ans, et là, à ce moment-là, tu as les 1,1 milliard de dollars à la fin de ces 30 ans, tu es versé, tu as une somme chaque année, ok. Soit tu touches tout de suite, et pas plus, tu touches tout de suite 537,5 millions de dollars. En une seule fois.
Ah, mais pas plus.
Non, pas plus. Ah,
c'est bizarre, ça.
C'est bizarre, mais c'est comme ça.
Pierrot, prends les 500 boules.
Denis, c'est pas ça.
Non, attends, c'est les escrocs, le mec.
Mais non, c'est les escrocs.
Ben oui, mais si tu meurs avant la fin des 30 ans,
ça va t'aider à ta famille.
Non mais Denis, ça doit être bien stipulé, parce qu'autrement c'est pas possible, d'un milliard tu tombes à 500 millions. Autrement,
c'est stipulé,
ça doit être bien stipulé. Et il faut prendre les 500 d'entrée, parce qu'en 30 ans, Pierrot, les 500 placés, ça va faire 4 fois ce que
ça va, vite,
ça va faire 3 milliards. Là, va 3 milliards et demi, 4 milliards. Donc prends les 500 d'entrée.
Denis, tu fais quoi? Tu prends les 500 ou pas? Si tu décèdes, ce qu'on ne te souhaite pas, ça va à ta famille.
Combien par mois sur 30 ans?
Mais calculez pas.
1 milliard divisé par.
Ça fait à peu près 34 millions chaque année.
Écoute-moi, à 7%, 500 millions, tu vas prendre ça va faire à 26. Peu près sur 10% 25 boules.
Ah Mario,
sur
ça va vite aussi, le calcul.
Sur 30 ans, tu vas faire 1 milliard. Tu as triplé Warcraft de ta somme.
Denis, tu fais quoi?
Il faut prendre.
Mais oui,
tu prends. Mario aussi, tu prends.
Mais totalement, parce que tu les places. Elle est même à 5% sur un capital garanti où tu as zéro risque. C'est à 537 millions, t'as dit?
Ça fait 26 millions
avec un peu plus, avec des brouettes d'intérêts par an.
Puis Mario t'achète un appartement à Dubaï, tu vois.
Non, mais attention, parce qu'après.
Tu parles de Dubaï, j'ai reçu un message et un fidèle auditeur qui nous écoute depuis Dubaï.
Ah, ben on le salue.
On est écouté jusque très très loin.
Pierrot, tu fais quoi?
Ben c'est simple, Vincent il a donné la bonne solution. Ouais. Si t'es un vrai chef d'entreprise, si tu sais gérer ton argent, tu fais ça. Mais les épiciers comme nous, comme toi et moi, on va dire, ah ben non, on prend 30 millions par an et on est payé.
Non, mais jamais. Tu les places, tu vis qu'avec les intérêts, tu touches jamais capital.
Tu prends un conseiller, Pierrot, tu prends un bon conseiller, on n'a aucune confiance. Le cabinet Filopatchi, on va te conseiller ça.
Le record, juste pour info, c'était lors du Powerball, c'est une loterie concurrente dans le même pays, aux États-Unis. C'était 2,04 milliards de dollars gagnés en novembre 2022 en Californie. 2 milliards, c'est pas mal. Tu vois la vie différente. Sans transition. Alors ça, c'est une spécialité.
Mais qui doit devenir fou.
Vincent, marketing dans le foot, la réalité a dépassé la fiction.
La réunion a duré 7 heures. 7 heures de branlette. Avec quelques morceaux de bravoure.
Gagnant, autre chose?
Oui, important. J'aimerais qu'on valide la densité du verre de la pelouse.
Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. J'aurais aimé, franchement, assister aux réunions de brainstorming pour faire ce logo.
99 francs, magnifique film. La réalité a dépassé le film. À la Ligue de foot professionnelle, Vincent, la Ligue 1 a un nouveau logo pour évoluer, pour se moderniser, etc. Deux lettres, le L et le 1, entremêlés sur un fond de couleur bleue électrique. Donc, alors quand c'est comme ça, il faut quand même expliquer pourquoi ce logo, comment a-t-il été pensé, conceptualisé. Et quand c'est comme ça, on fait appel à une agence qu'on paye. Donc là, c'est, là,
non, même pas, c'est le directeur marketing de la Ligue. Hein.
Mais c'est l'agence Leroy Tremblot et donc son directeur Dominique Jubert explique la démarche de ce logo dans le journal Le Parisien. Il explique pourquoi. Donc je vous livre son explication, c'est assez savoureux. Tu es prêt, Vincent?
Oui.
Donc pourquoi ce logo? Expliquez-nous le concept. C'est un L et un bleu, c'est fait la Ligue 1, quoi, en gros. Ça paraît très... Il nous dit, ce monsieur, Jubert, ça paraît très simple quand on voit le résultat, mais on a souhaité incarner l'iconicité souhaitée par la Ligue, par quelque chose de très simple, mais singulier dans son dessin.
C'est très beau.
La suite. On a voulu donner au 1 un caractère propriétaire, l'expression la plus simple de la Ligue 1, à la fois un caractère très français, sans être trop littéraire et artistique, avec une approche dynamique.
C'est incroyable.
Je crois que c'est ChatGPT qui a généré ça. Je suis un copier-coller.
Mais on ne peut pas le justifier, le logo, quoi.
Ils ont perdu tous leurs clients d'un coup.
C'est ça le problème. Mais bien sûr, ça coûte très cher. Pour faire cette bouillie, il faut avoir du talent, quelque part.
Il faut savoir il faut savoir combien ça a coûté, puisque c'est transparent. Les comptes de la Ligue 1 sont transparents.
Oui.
Donc il faudrait savoir.
Je sais pas, parce que ça a coûté peut-être. C'est privé. Hein.
Remarque, c'est privé. Ça a coûté 50 000 euros.
Oui, mais dans les bilans, tous les bilans sont. Tu peux les regarder sur Internet.
À mon avis, c'est l'agence.
Toutes les sociétés. Et donc, des centaines de milliers d'euros, probablement.
On a voulu donner au 1. Un caractère propriétaire.
C'est fou.
Vous avez 2 heures. On relève les copies dans 2 heures.
L'iconicité, Vincent.
C'est la première fois que je te
dis. Mais je te dis que je suis sûr que c'est ChatGPT qui a fait ça.
Mais non, mais c'est ça. Écoute-moi, ces mecs-là, tu leur dis, mais ils te regardent.
Ce sont des génies.
Ils te
regardent. Mais
regardez-moi, ces primeurs qui n'y comprennent rien. Tu sais, c'est comme les archis, ça. C'est une race, ça aussi, les archis. C'est terrible. Écoute-moi.
Ça sent une expérience.
Écoute-moi. Non mais pas tous. Moi j'en ai croisé des phénomènes. Mais les mecs, ils ont le boulard. Et si tu comprends pas le
rat. Bien sûr, exactement.
Oh, non, après, ils te prennent une primaire, une pompe.
Et puis
quoi,
surtout,
à la différence, Vincent, les architectes qui ont le boulard, c'est clair. Mais à la différence, c'est qu'ils
font des édifices
majestueux. Tandis que là, c'est un pauvre logo pour âme.
Et puis il y en a des très bons. Que là, c'était un brouillon de 6ème transition. Comment il s'appelle lui, la Boutron là? Comment il s'appelle lui?
Boutron, Benoît Boutron,
Tromblon.
Là, on parle d'un très bon. Je vous donne des nouvelles d'un très grand artiste que vous connaissez tous.
Manu.
Un grand fan de foot. Il a sa place dans le journal moyen. Fan de Diego Maradona, Manu Chao, fan du Barça. Il habite à Barcelone. Très très rare en concert, très très rare dans les médias. La Dépêche du Midi nous donne de ses nouvelles. Il a accepté une proposition très étonnante. Je pense que les organisateurs du festival qui s'appelle Le Vrai Repère n'y croyaient pas du tout quand ils ont lancé le projet il y a quelques années. Le 4 juin, Manu Chao a accepté de donner un concert dans le petit village de Varère, dans le Lot. C'est un village, écoutez bien l'histoire, de 350 habitants. C'est fou. Incroyable. Il y aura 1500 privilégiés. Les places ont été mises en ligne, en vente pour ce festival. Les places ont été vendues en moins de 2 minutes 30. C'est-à-dire que les 1500 places, 2 génial. Minutes 30. Ça faisait 5 ans que l'équipe du festival relançait chaque année, Manu Chao, il rêvait de l'avoir. En 2023, l'année dernière, il y a un proche de Manu Chao qui vient au festival et qui dit « Bon, ben, je vais lui relancer, pourquoi pas ?» Et finalement, il donne aux organisateurs du festival le numéro du tourneur, de l'agent de Manu Chao.
Et puis finalement,
au journal Le Parisien, Julien Rigaud-Boyer et Maxime Bess, les coprésidents de l'association Vrai Repère Festival, racontent aux Parisiens, on a dû donner, il nous a dit oui, mais par contre, il fallait, parce qu'il a un programme chargé, Manu Chao, il a fallu donner la réponse en 24 heures pour sa date du 4 juin, alors que notre festival a lieu du 16 au 17. Ouh. Donc, ils ont mobilisé tout le Barnum, toute la logistique, tous les volontaires qui ont tous dit oui pour dire le 4 juin, on fait un one shot et Manu Chao, pour la petite histoire, c'est pas lui qui le dit, ce sont les organisateurs, a accepté de baisser de manière conséquente son cachet. Il a pas facturé ça comme à Jackie Lorenzetti à l'Arena, tu vois, voilà.
Pas le cachet de Vincent.
Donc vous aussi, petit festival, n'hésitez pas à contacter Vincent.
Peut-être Vincent
acceptera peut-être de baisser son cachet sur un petit festival dans le Lot. N'hésitez pas à contacter la production de Vincent Moscato.
Il va passer en Camadour, Vincent.
Mais l'histoire est incroyable parce que c'est un artiste culte et mythique. Lui, pour le coup, il est iconique, Manu Chao. Enfin, l'histoire est dingue. Petit village, 350 habitants qui vont accueillir Manu Chao.
Bravo, Manu. T'as pas un beau frère qui habite à Varère, non, Vincent? Non, par hasard, pour l'anecdote, tu vois, que tu nous racontes une petite truc.
Le festival est connu, mais bon, de là, on sort Manu Chao.
Mais écoute-moi, je connais quelqu'un à Barère. Pas un beau frère, mais un ami à moi et des places, si t'en veux, Piron. J'en aurai deux. Voilà.
Tu connais Barère?
Toi, tu t'es moqué de moi, trois que dalle, tu me regarderas parce que.
Eh ben, je suis content pour
c'est connu Barère, Denis, le Lot, dans le Lot, 350 habitants? Ouais. Non, pas du tout.
Non, mais c'est, il y a 300 habitants.
Tu retournes à Cahors de temps en temps?
Oui, de temps en temps. C'est juste à côté de Cahors,
Oui.
Combien de kilomètres? Je sais pas, mais ça, entre Cahors et Villefranche.
Pierrot, tu crois que les bourgeois de Cahors s'arrêtent à Varère?
Déjà.
Les mecs aux pignons sur rue.
Ah, c'est bourgeois Cahors maintenant.
Je te pose une question, Vincent. Denis,
dans le sens où l'entend nous ici à Paris.
Denis se rend-il régulièrement à Cahors, Vincent?
Jamais. Je te dis la dernière fois, hélas, ce qui a été, c'était chez l'auteur, pour hériter.
Arrête. Dans un instant.
On essaie de sa mère, qu'on l'embrasse.
Le rugby sur RMC, avec l'interview de Grégory Aldrit sur les internationaux. Faut-il tout revoir à zéro pour être champion du monde? À tout de suite, Vincent règle le problème sur RMC.
Allez, on revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h,
le Super Moscato Show.